Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 12 février 1992.
De l'ami comme d'un moyen. C'est pas la finalité. Mais comprenons bien ça. Ça c'est, je comprends très bien que c'est pas commode à bien analyser ma manière de vivre mon acte et l'acte lui-même. Ma manière de vivre mon acte, c'est toujours entelekeia, c'est jamais energeia. Donc aimer pour la capacité d'aimer, pour augmenter ma capacité d'aimer, sont actes energeia, non. L'energeia, c'est l'acte comme tel. C'est donc l'ami, le bien que j'aime, qui m'attire. Tandis qu'aimer pour augmenter ma capacité d'aimer, ça peut se faire, ça. Mais quelqu'un qui vous dit ça, qu'est-ce que vous allez lui dire? Attention, vous préférez la perfection à la finalité. Au fond, ce que vous cherchez, c'est de vous perfectionner. Or, la perfection comme telle ne finalise pas. La perfection me donne une capacité plus grande d'efficacité. Oui, c'est, d'une certaine manière, c'est le retour à l'efficacité. Et ce n'est pas le dépassement de l'efficacité. Aimer pour être capable d'aimer plus, c'est réintroduire dans l'amour l'efficacité, la puissance. Je crois qu'on peut assez facilement comprendre cela. Dans un examen de conscience métaphysique, si on les considère maintenant relativement à leur fin, ces actes sont entelekeia, opérations par lesquelles je suis lié à la fin. Si je regarde les opérations vitales, vous voyez, c'est plus l'être, c'est les opérations vitales. Mes opérations vitales, en tant qu'elles atteignent ma fin, en tant qu'elles me permettent d'atteindre ma fin, c'est tout à fait, c'est ma manière d'exister qui me permet d'atteindre ma fin. Mais ma fin n'est pas mon opération vitale. Ma fin me permet, ma fin m'est donnée au-delà de mon opération vitale. Alors, dans l'amour d'amitié, je saisis l'ami comme fin, comme au-delà de l'opération vitale, mais à travers cette opération vitale, tout à fait juste. Je ne peux pas les séparer, je les distingue. Il s'agit d'une saisie métaphorique de la fin. Ah non. Il ne s'agit pas d'une opération, mais il ne s'agit pas d'une saisie métaphorique de la fin. L'opération vitale par laquelle j'aime mon ami, c'est une opération vitale comme telle, qui me permet d'atteindre l'ami. Et puis c'est tout. Je ne veux pas dire opération, saisie métaphorique. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis saisie métaphorique? Je ne peux pas qualifier ça de métaphorique. Je dis opération vitale, et puis c'est tout. C'est une opération vitale d'amour qui me permet d'atteindre mon ami. Qu'est-ce que cela signifie? Donc ça ne signifie rien du tout. Et sur quoi porte la métaphore? Vous avez fait attention, j'ai parlé de ceux. Faites attention, il ne faut pas confondre. J'ai parlé de ceux qui disait que la causalité finale était métaphorique. Bon, dont Scott disait que la causalité finale était métaphorique. Pourquoi disait-il que la causalité finale était métaphorique? Parce qu'au fond, pour eux, la causalité finale n'est efficace que grâce à la causalité efficiente. Et donc, elle est causalité métaphorique, parce qu'elle n'est efficace que grâce à une autre causalité. Alors faisons attention. Tandis qu'au contraire, atteindre l'ami comme mon bien par mon opération vitale, ce n'est pas métaphorique. C'est réel, tout simplement. C'est à travers un choix amical que je saisis l'ami. Vous voyez ? Donc, ne confondons pas les plans. Quand on dit que la causalité finale est métaphorique, c'est parce qu'on confond les plans et qu'on n'a pas saisi la finalité au niveau de l'être. Vous nous avez dit que l'essai... Là, attendez, je regarde encore. Et ceci, je vais prendre un lieu. Vous dites que dans l'analogie adunum, donc c'est encore un peu autre chose, c'est la question de l'analogie. Vous dites que dans l'analogie adunum, il y a un ordre, celui de toutes les déterminations vers la substance. Et que dans l'analogie de proportion, donc l'analogie propre, il n'y a pas d'ordre. Comment alors comprendre que l'être en puissance est radicalement ordonné à l'être en acte? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. L'analogie, quand je divise l'être en acte et l'être en puissance, il est évident que l'être en puissance est totalement ordonné à l'être en acte. Mais vous voyez bien que l'ordre, là, n'est pas au niveau des déterminations. L'ordre est la proportion elle-même. C'est différent. Vous n'avez qu'à regarder. Essayez de comprendre la différence entre la division qui est opéré entre substance et qualité et quantité et relation. Les 10 prédicaments, ou les 9 prédicaments, en réalité ils sont 9 puisque la substance est mise en dehors. Toutes ces déterminations sont ordonnées à la substance. Dans ce sens-là, je dis qu'il y a un ordre. C'est ordonné adunum. Et la substance est comme la mesure et la source de toutes ces déterminations. Donc, vous avez une analogie à l'intérieur de cet ordre. En ce sens que vous dites que la qualité est une des modalités de l'être. Modalité de l'être relative à la substance qui est le principe propre, la source première de l'être. La quantité est aussi une modalité de l'être. Et cette modalité de l'être, pour comprendre ce qu'elle est, je la regarde dans son ordre à la substance. Pour savoir comment la qualité est être, je la regarde dans son ordre à la substance. Pour savoir ce que la quantité est être, je la regarde dans son ordre à la substance. Pour savoir ce que la relation est être, je la regarde dans son ordre à la substance. Il y a donc un ordre à l'intérieur même de ces diverses déterminations. Quand je suis en présence de l'être en acte et l'être en puissance, je dis, il n'y a pas d'ordre au sens absolu, puisque c'est l'être qui est divisé en acte et en puissance. L'être en puissance est totalement relatif à l'être en acte, c'est sûr. À ce point de vue-là, il y a un ordre, mais ce n'est pas du tout le même ordre. Ici, c'est l'ordre des diverses déterminations, extrinsèques à la substance. Ce n'est pas la substance. Et il y a un ordre en fonction du fait que chacune est relative à la substance, mais selon une modalité différente. Donc on dit un ordre adunum. Tandis que de l'autre côté, c'est l'être en puissance qui est tout entier tourné vers l'acte. Et qui n'est intelligible qu'en fonction de cet ordre vers l'acte. Alors, je veux bien qu'il y ait un ordre ici, c'est sûr. Mais cet ordre n'est pas extérieur à la substance, n'est pas extérieur à l'acte. L'être en puissance ne se comprend qu'en fonction de l'être en acte. La qualité, c'est une modalité d'être qui est toute relative à la substance, c'est sûr. Mais qui a en elle-même une certaine quiddité, une certaine détermination, qui fait que cette détermination peut être une, deux, trois déterminations, je les ordonne. Vous ne trouvez pas ça du côté de la puissance. C'est en ce sens-là que la division de l'être en acte et de l'être en puissance est une division radicale. Qui se prend du côté de la fin. Tandis qu'au contraire, l'autre est une division qui se prend selon la forme et qui nous donne une diversité de modalités d'être, de formes, toutes ordonnées à la substance. Alors ce que je vous donnais, c'était la classification habituelle que saint Thomas nous donne en disant analogie adunum, en ce sens que c'est relatif à la substance que tous sont pris d'une façon analogique et impliquent un certain ordre. Tandis que quand il s'agit de la division de l'être en acte et de l'être en puissance, cette division est radicale et n'implique pas d'ordre extrinsèque à la puissance. L'être en puissance est tout entier ordonné à l'être en acte, ça c'est sûr. Alors, comment alors comprendre que l'être en puissance est radicalement ordonné à l'être en acte? Cela ne manifeste-t-il pas qu'il y a un ordre radical dans l'analogie de proportion? C'est sûr, c'est la proportion elle-même qui applique cet ordre. Tandis que de l'autre côté, il y a un ordre, j'allais dire, un fruit de cette division qui implique l'ordre des diverses formes. Tandis que de l'autre côté, c'est la division même de l'être qui est impliquée dans l'être en acte et l'être en puissance. Donc c'est une division bien plus radicale. Ce sont les deux divisions de l'être, selon la forme et selon la fin. Nous verrons ensuite un petit problème. Est-ce qu'il y a une troisième division de l'être? Un est multiple. Ou est-ce que ce n'est pas une vraie division de l'être? Saint Thomas dit que c'est une division de l'être. Aristote ne le dit jamais. Alors ça, c'est amusant à voir. Ça vient d'Avicenne. Alors est-ce que saint Thomas peut le dire, on peut le dire comme ça, mais est-ce que c'est une vraie division de l'être? Ou est-ce que c'est une division des propriétés de l'être qui n'est pas immédiatement une division de l'être? On verra ça après. Alors, dernière question. Vous nous avez dit que l'essai n'est pas atteint par induction. Qu'il n'est qu'une modalité de l'acte. Pourquoi ne peut-on pas dire que l'essai peut être atteint par une induction synthétique à partir de tous les sens? Il serait alors principe au niveau de l'être, c'est-à-dire ce par quoi ce qui est est. C'est juste. Mais ça n'enlève pas l'autre point de vue. On va essayer de comprendre ça. Attendez. Deuxièmement, si donc l'essai n'est qu'une modalité de l'acte, préciser ce que cela signifie. Pourquoi, par analogie avec l'acte, ne peut-on induire la puissance selon un mode synthétique et analogique ? Le sommeil, la capacité de travailler, d'aimer, etc. La puissance, principe, ne pourrait-elle être au devenir ce que l'acte est à l'être ? La puissance comme telle n'est pas un principe, puisque elle est toujours seconde. L'être en puissance, en tant qu'il est en puissance, est tout entier ordonné à l'acte. S'il est tout entier ordonné à l'acte, il est tout entier relatif à l'acte. Donc il n'est pas premier. Il n'est pas principe dans l'ordre de l'être. S'il n'est pas principe dans l'ordre de l'être, il ne peut être saisi que par l'acte. Toute son intelligibilité lui vient de l'acte. Donc je ne saisis jamais la puissance comme un principe, comme quelque chose de premier. Mais je peux, alors je vois très bien l'objection, je peux saisir la puissance comme une capacité d'opérer. Donc à ce moment-là, je dis, il est principe, attention, principe de mes opérations vitales, qui impliquent un devenir. Or, dans l'ordre du devenir, nous allons le voir, le principe, la puissance est antérieure à l'acte, mais c'est dans l'ordre du devenir. Dans l'ordre de l'être, la puissance n'est jamais première. Ça, c'est assez difficile à bien préciser, mais c'est très important. Je reprends pour que vous voyez bien. Dans l'ordre de l'être, l'être en puissance est toujours second. Toujours. Il est saisi à partir de l'être en acte. Donc il est toujours second dans l'ordre de l'être. Mais dans l'ordre du devenir, la puissance est antérieure à l'acte. C'est le propre du devenir. Je commence à balbutier. Je commence à faire des actes très imparfaits, le gatsos, avant d'être maître. Non pas en gatsos, mais avant d'être maître. Tandis qu'au point de départ, il fait les choses imparfaitement. On a tous commencé à faire les choses imparfaitement. Et puis petit à petit, on les fait parfaitement. Donc, dans l'ordre du devenir, la puissance est antérieure. Si la puissance est antérieure, elle joue le rôle d'un principe. Mais en réalité, elle n'est pas principe. Elle est principe à cause du devenir. C'est très très important pour comprendre la psychologie, ça. Parce que c'est là toute la différence entre la philosophie et la psychologie. La psychologie, vous êtes toujours dans le devenir. Et c'est pour ça que la puissance est regardée comme capacité, donc comme principe. Dans les opérations vitales, où il y a un devenir, donc, la puissance est antérieure à l'opération. Antérieure à l'acte. Mais elle n'est pas puissance au sens, elle n'est pas principe au sens fort. Elle est principe du devenir. Voilà ce qu'il faut dire tout de suite. Et partout où il y a le devenir, il y aura la puissance antérieure à l'acte, comme capacité d'opérer. Alors, je reprends le premier, qui est plus important et plus intéressant, ce que nous avions vu. Si vous vous souvenez bien ce que nous avions vu la dernière fois, une fois qu'on arrive à cette distinction par l'induction synthétique sur le point de vue de l'être en acte et de l'être en puissance, cette induction met en œuvre toutes les parties de la philosophie. Tellement elle est difficile, et en même temps tellement elle est simple. Et c'est à cause de sa simplicité qu'elle est très difficile. Parce que l'être en acte, c'est la fin. C'est ce qui donne le sens à tout le reste. L'être en puissance, tout entier relatif à l'être en acte, et donc n'a d'intelligibilité que par rapport à l'être en acte. Il est relatif à l'être en acte. Je vois tout de suite, du moins si je réfléchis, je vois tout de suite que cet être en acte se donne à moi selon diverses modalités. Première modalité, c'est au niveau de la substance. La manière d'exister de la substance. La substance a ceci de particulier, c'est qu'elle subsiste par elle-même. C'est-à-dire qu'elle a son essai. Elle a. À voir. Elle a son essai. Elle a l'essai. C'est ça que ça veut dire quand on dit que la substance subsiste. Je suis donc en présence de la première modalité de l'être en acte. C'est l'essai de la substance. De toute substance. De toute espèce de substance. Et comprenez bien, quand je dis ça, je ne regarde plus la substance au sens tout à fait strict, comme principe propre, selon la forme de ce qui est. Mais je regarde la manière dont la substance existe. Donc c'est le premier pos, c'est le premier comment. La manière dont la substance existe. La substance a cette, j'allais dire, ce privilège de subsister. C'est-à-dire, puisqu'elle est principe d'être, elle est acte. Et elle a un lien tout à fait particulier avec l'être en acte, avec l'essai. C'est pour ça que je dis que la substance subsiste par elle-même, elle a son essai. Et quand je dis ça, je ne suis pas en présence de l'être en acte, mais je suis en présence de la première modalité de ce qui est en acte. Donc la première modalité de l'être en acte. De fait, l'être en acte m'est donné en premier lieu dans l'essai. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce n'est pas l'être en acte ? L'essai. Et c'est vrai, c'est l'être en acte. Mais c'est quand même la première modalité de l'être en acte. C'est ça qui est assez difficile et assez délicat à comprendre. Un petit indice. Saint Thomas dit toujours, et ça m'a toujours beaucoup frappé, qu'est-ce que c'est que l'essai ? Il dit, l'essai, c'est l'acte, actus, essendi, l'acte de ce qui est capable d'exister. Actus, essendi, l'essai égale actus, essendi. Je précise l'essai par l'acte. Je ne dis jamais que l'acte c'est l'essai. Je dis que l'essai est acte. Tandis que je dis que l'essai est l'acte d'être. C'est un fait. Saint Thomas dit ça. C'est intéressant de voir ça. Parce que ça montre, et ceci, on entre alors dans toute une petite querelle thomiste, intéressante, puisque c'est intéressant d'essayer de bien comprendre le langage de saint Thomas. Bon, première affirmation. esse actus essendi. Si je réfléchis sur cette affirmation, je vois que on précise ce qu'est l'esse, l'être, par l'acte. Actus essendi. Si je précise ce qu'est l'esse par l'acte, ça prouve que l'acte est pour moi quelque chose de plus intelligible. Autrement, je ne ferais pas comme ça. Évidemment, dans le langage, c'est ça la difficulté, dans le langage, esse, qu'est-ce que c'est? C'est l'infinitif du verbe être. C'est l'être. Et donc, si c'est l'être, c'est l'être en acte. Je suis tout à fait d'accord. Mais le langage n'est pas métaphysique. Donc, il ne faut jamais s'arrêter au langage. Il faut chercher la signification du langage. Autrement, je ne peux pas. C'est pour ça que saint Thomas dit que la discussion au niveau des mots n'est pas philosophique. Parce que mon langage n'est pas métaphysique. Je pense métaphysiquement. Mais je ne parle pas métaphysiquement. Certains voudraient inventer un langage métaphysique. C'est impossible. Et vous comprenez pourquoi? Parce que mon langage est toujours lié à une image. Donc il n'est pas métaphysique. Il ne peut pas l'être. Mon langage est lié à l'expérience. Il est lié. Donc, à l'expérience, il est lié à une image, tout le temps. Dès que je parle, il y a une représentation. Mais je peux réfléchir sur mon langage et dépasser la représentation, regardez la signification. Alors je suis tout à fait d'accord qu'au point de vue du langage, l'essai, c'est l'être en acte. Mais au point de vue de la signification, l'essai, c'est une première modalité de l'acte. De l'être en acte. C'est la modalité la plus fondamentale, la plus radicale, c'est celle qui est au niveau de la substance. La substance subsiste. Elle a l'essé. Donc si elle a l'essé, on voit bien comment je suis en présence de cette première modalité de l'acte. Alors, je reprends la question. Pourquoi ne peut-on pas dire que l'essai peut être atteint par une induction synthétique? Donc, ceci c'est pour dire, est-ce que je ne pourrais pas dire que l'essai n'est pas une modalité de l'être en acte, mais que l'essai est l'être en acte? Si l'essai est l'être en acte, il est donc fin. Il est donc atteint par une induction. Vous voyez bien la question, hein, qui est très juste. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut poser la question. J'ai tout de suite donné la solution sans regarder la question. Mais je comprends très bien qu'on peut très bien se poser la question. Alors, est-ce que je puis dire que l'induction de l'être en acte, c'est aboutir à l'essai? Et non pas l'être en acte. Autrement dit, l'être en acte, pour moi, dans mon langage métaphysique, l'être en acte touche la fin de ce qui est. Tandis que l'essai n'atteint pas immédiatement la fin de ce qui est, mais la modalité substantiel de l'être en acte. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que je dis modalité, je dis donc une manière particulière dont la fin se donne à moi. Et donc ce n'est pas ce qui est atteint par l'induction. Ce qui est atteint par l'induction, c'est la fin. C'est le principe. Alors, on va voir pourquoi on ne peut pas dire ça. Pourquoi ne peut-on pas dire que l'essai peut être atteint par une induction synthétique à partir de tous les ens, donc de toutes les réalités qui existent. Il serait alors principe au niveau de l'être, principe fin au niveau de l'être, c'est-à-dire ce par quoi ce qui est est. Alors, je suis parti au plan métaphysique du jugement d'existence. Il faut toujours se rappeler ça. Le jugement d'existence est présent en acte dans l'induction. Le jugement d'existence me met en présence de la réalité existante en acte. Et pas du principe. C'est la réalité existante, c'est celle-là que je saisis. L'être existant. Ceci est. Ce que je cherche, c'est la finalité de ce qui est en tant qu'il existe. C'est l'être en acte. Autrement dit, je dépasse le point de vue de l'essai pour saisir ce par quoi l'essai est essai. Et je dis que c'est le point de vue de la fin, cela, de ce qui est. Et donc, j'emploie un nouveau mot en disant c'est l'être en acte, distinct de l'être en puissance. Tandis que quand j'ai saisi l'essai par le jugement d'existence, je saisis telle réalité existante. Ceci est donc une manière d'exister. Moi, je suis, j'existe. Ceci est. Et c'est mon jugement d'existence qui est au point de départ de toute ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle ne commence pas par la saisie d'un principe, mais par une réalité existante, une modalité particulière d'exister. Et cette réalité particulière d'exister, elle m'est donnée dans mon jugement d'existence. C'est donné. Je pars de là et je me pose la question, qu'est-ce qui est fin de ce qui est? Je ne vais pas dire ce qui est fin de ce qui est, c'est ce qui est. Parce que ça, c'est refuser l'analyse. Ce qui est complexe. Puisqu'il est complexe, je peux l'analyser. Et je peux analyser dans ce qui est, ce qui est la fin de ce qui est, donc ce qui est ultime de ce qui est. Et je dis, c'est l'être en acte. C'est pas l'essai. L'essai, c'est la réalité telle qu'elle m'est donnée. Cette réalité existe. Elle est. Donc vous voyez, le passage entre le pose, le comment la réalité se donne à moi, et le principe qui est la fin, le passage du pose au tiesti. Comprenons bien que ce tiesti, bon, c'est très vrai, il existe, mais ce tiesti n'existe que dans mon intelligence, comme tel. Qu'est-ce qui est dans la réalité? C'est l'essai, la manière d'exister. Mais la saisie du principe, c'est l'intelligence qui saisit ce principe au terme d'une induction. L'essai n'est pas le terme de l'induction, parce que l'essai m'est donné dans le jugement d'existence. Alors je pourrais dire, pour répondre à une objection, attention, vous avez la saisie première d'un essai au niveau d'une manière d'exister. Donc, concrète, tout à fait d'accord. Mais je peux analyser cet essai complexe. Je suis et j'existe dans la complexité. Puisque j'ai mon âme qui existe et j'ai mon corps qui existe. Et j'ai mes opérations vitales qui existent. Donc j'existe dans la complexité, c'est bien évident. Dans mon jugement d'existence, je dis « je suis » et c'est complexe. Puisque c'est complexe, je peux donc chercher qu'est-ce qui est source première de cet exister. Donc j'interroge. Et donc j'induis. Alors, je cherche la source ultime, finale de cet essai. Pourquoi ce n'est pas l'essai? Ce n'est pas l'essai, puisque je suis parti de ce jugement d'existence où mon intelligence affirme ceci existe. Et je veux analyser ceci qui existe. Je suis pour en saisir la fin. Et ceci implique une induction. Et je dis que le fruit de cette induction, c'est l'être en acte. Cet être en acte est inséparable de l'essai, mais il précise dans l'essai ce qui est la fin. Donc, je passe de la manière particulière d'exister à la fin, au principe. Je suis tout à fait d'accord que l'essai est fin, mais l'essai saisi au point de départ est saisi selon une manière d'exister. Et c'est pour ça que, ayant saisi l'être en acte, je peux revenir à mon jugement d'existence et voir qu'en effet ce jugement d'existence me met en contact avec la première modalité de l'acte. Mais ce n'est pas l'être en acte. L'être en acte est principe. Tandis que la saisie de ceci existe est une manière particulière dont l'être en acte se présente à moi. Alors, si donc l'essai n'est qu'une modalité de l'acte, pouvez-vous préciser ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que l'être en acte est fin. Donc le fruit d'une analyse, le fruit d'une induction. Et que l'essai m'est donné immédiatement dans mon expérience. Ce qui m'est donné dans l'expérience, c'est la réalité qui existe. Donc c'est la différence entre telle manière d'exister et la fin. Et c'est une question de signification, c'est tout à fait juste. C'est pour ça que c'est seule l'intelligence qui saisit une fin, et qui saisissant la fin, saisit la signification propre de l'être en acte. Je sais que c'est très subtil, c'est très difficile. La preuve, c'est que c'est tombé dans le lac. Et que, de fait, même Avicenne n'a pas saisi ça. Il est resté au niveau des modalités de l'acte. Il n'a pas saisi l'être en acte fin. Je crois qu'il y a qu'Aristote et Thomas d'Aquin. C'est très très curieux. Et alors, Gilson tourne autour et Gilson veut ramener l'être en acte à l'essai. En disant que c'est l'essai qui caractérise la métaphysique de saint Thomas. Il lui dit non. Saint Thomas nous dit expressément que ce qui spécifie une science, c'est la saisie de ses principes propres et non pas d'expérience. la saisie des principes propres caractérise la métaphysique. Quels sont les principes propres de la métaphysique? La substance, l'être en acte. La substance, le principe propre selon la forme. L'être en acte, le principe propre selon la fin. C'est pour ça que quand Gilson prétendait qu'il y a une métaphysique propre de saint Thomas, distincte de celle d'Aristote, et que je lui ai demandé quel est le principe nouveau de cette métaphysique, Gilson n'a pas su me le dire. Il était agacé, forcément. Je dis, vous restez à un point de vue descriptif. C'est évident que dans saint Thomas, l'essai prend une place énorme, ce qui est normal. C'est un théologien. Il regarde tout dans la lumière de Dieu. Or, Dieu, le théologien, après avoir regardé la simplicité de Dieu, dit Dieu est l'ipsum esse subsistens. Il caractérise la manière propre d'exister de Dieu par l'essai, pas par l'être en acte. C'est évident que Dieu est l'être en acte, mais ce n'est pas ça qui caractérise l'être de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise l'être de Dieu? C'est sa manière propre d'être. Il est l'ipsum esse subsistens. Il subsiste dans son essai. Quelle est ma manière propre d'exister? C'est d'être un essai participé. La manière propre de la créature, c'est d'être l'essai participé. Mais laisser participer implique l'être en acte, c'est sûr. Mais implique l'être en acte relatif à un autre être en acte. C'est pour ça que je prends laisser participer pour caractériser la manière propre dont la créature existe. Elle existe dans un laisser participer. Ceci, c'est dans la lumière de la création. Je n'ai pas l'expérience de laisser participer. Si j'avais l'expérience de laisser participer, j'aurais l'expérience de Dieu. Direct. Ça simplifierait beaucoup de choses. Mais la créature est une intelligence. Surtout une intelligence créée à la manière dont l'intelligence de l'homme ne peut pas avoir l'expérience directe de Dieu. J'ai l'expérience directe de la réalité existante. Je peux découvrir la fin propre de ce qui est en précisant l'être en acte. Je peux, à partir de là, découvrir la nécessité de poser un être premier qu'on appelle Dieu selon les traditions religieuses. Je peux préciser que le lien entre l'être premier et moi-même, c'est le point de vue de la création. Et que j'ai un essai participé. Ça, je le conclus. Mais je ne le touche pas. Je n'en ai pas l'expérience directe. En tant que créature, je ne peux avoir qu'un essai participé. Oui. Donc, c'est pour ça que je crois que nous devons dire au plan métaphysique que l'être en acte, l'énergéia, l'être en acte, fin de ce qui est comme tel, saisi par mode inductif, donc saisi par l'intelligence comme telle, au-delà de l'expérience, l'intelligence séparée, une intelligence qui est partie de l'expérience, mais qui la dépasse grâce à l'induction. Et cette intelligence saisit l'être en acte comme fin de ce qui est. Une fois que je saisis ça, je peux préciser que la première modalité de l'être en acte, c'est l'essai. la substance. Je peux ensuite préciser que la seconde modalité de l'être en acte, au niveau de l'esprit, c'est la vérité. Que la troisième modalité de l'être en acte, c'est le bien. Que la quatrième modalité de l'être en acte, c'est l'opération vitale. Et que la cinquième modalité de l'être en acte, c'est le mouvement. Cinq modalités qui permettent de reprendre toute la philosophie dans la lumière de l'être en acte et de l'être en puissance. Et c'est nécessaire, étant donné la fragilité de la saisie inductive. Toute saisie inductive possède une fragilité unique. Pas commun de saisir un principe au niveau métaphysique, au niveau de ce qui est. C'est pour ça que toutes les objections que vous pouvez avoir, sortez-les, ça vous aidera. Parce que toutes les objections impliquent une petite confusion. Alors il faut voir où gît la confusion pour libérer notre intelligence. C'est en ce sens-là que si on ne se pose pas de questions, on ne progresse pas. Parce qu'on reste avec ses nœuds. Alors, il faut arriver progressivement à libérer notre intelligence pour qu'elle arrive à saisir la fin de ce qui est comme être. Mais c'est pas commode. On vient me dire, ça sert à rien. Oh, ça sert. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Grâce à cela, l'intelligence, nous le verrons, l'intelligence peut démontrer a posteriori l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu. Tant que l'intelligence n'a pas atteint l'être en acte comme fin, elle répète les démonstrations de saint Thomas, mais elle ne les comprend pas. C'est ce qu'a fait toute la scolastique. Et on voit qu'elle les répète, parce qu'au tournant, on voit que c'est faux. Comme des répétitions, vous savez, quand les gens répètent sans rien comprendre, les gosses apprennent par cœur, ils répètent. Puis de temps en temps, ils ne savent plus, alors l'imagination dit, ils disent n'importe quoi, parce qu'il y a un trou, et que la nature horreur du vide. Alors il y a un trou, alors ils disent n'importe quoi, on voit très bien qu'ils n'ont pas compris. Ils répètent. Et dans la scolastique, on voit ça. On répète. Alors il y a un trou, on répète. Non, on dit n'importe quoi. Tandis que si on avait saisi, on ne dirait pas n'importe quoi. On serait fidèle à la saisie. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est au fond très rare. Quand Heidegger dit on a perdu l'être en métaphysique, l'être a été perdu. En réalité, c'est pas l'être. C'est l'acte. C'est l'être en acte. C'est la fin. Ce principe ultime, la fin de ce qui est, en tant que fin. Donc, essayez de comprendre cette première modalité. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est très difficile, puisque quelqu'un d'aussi intelligent que Gilson a confondu. L'erreur de Gilson, elle est là. Du moins, quant à mon jugement, l'erreur de Gilson, elle est là. Il a confondu l'être en acte et l'essai. Et il a fait de l'essai la découverte propre de la métaphysique de saint Thomas. Alors, l'essai comme tel, c'est déjà une modalité. Alors, c'est capital, c'est évident que c'est très important, la saisie de l'essai dans saint Thomas. C'est très, très important, et ce qui montre combien il a compris Aristote. Mais, en réalité, il n'y a pas une nouvelle métaphysique. Maritain dit la même chose. Maritain dit qu'il y a une nouvelle métaphysique de saint Thomas. par rapport à celle d'Aristote. Je pose toujours la même question. Quel est le nouveau principe? Si on ne dit pas le nouveau principe, on ne dit pas ce qu'est cette nouvelle science. On affirme ça imaginativement. Parce que tout simplement, saint Thomas étant théologien, met l'accent sur quelque chose qu'Aristote ne pouvait pas dire ou ne devait pas dire. Il l'a peut-être dit dans ce livre sur Dieu qui était perdu. C'est possible. Il y a un livre Peritouteo d'Aristote qui a été perdu. Si on n'avait pas perdu ce livre, on va peut-être le découvrir. Ce serait intéressant. Le livre sur Dieu. Aristote est tellement précis que ce qui l'intéresse, c'est justement de rester à ce niveau de l'analyse métaphysique de l'être et de montrer la nécessité de poser un être premier.